grand salon de l'Allier à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse où se renvoyer après inscription.
Radio J, le 6-9.
Nicolas Raffal.
Bonjour à toutes et à tous sur Radio J, dimanche 19 mai 2024. Il est 7h, on se dirige vers le studio Qualita de Jérusalem pour rejoindre Daniel Haïk.
Ce programme vous est présenté en partenariat avec Progresscom, l'école de commerce qui réinvente votre avenir. Avec 9 BTS et 2 bachelors en marketing et marketing digital, nous vous ouvrons les portes du succès dans le monde du commerce et de la communication. Informations sur progresscom.fr et sur Parcoursup. Progresscom, devenez les leaders de demain.
Radio J, le journal, en direct de nos studios de Jérusalem.
Boker Tov, Daniel Haïk, bonjour. On ouvre ce journal malheureusement ce matin encore par l'annonce de la mort de soldats israéliens au combat.
Oui, effectivement, Nicolas, le porte-parole de Tzahal a annoncé que 2 soldats des commandos d'élite de la brigade Givati ont été tués durant les combats dans le sud de la bande de Gaza. Il s'agit du sergent-chef Nachman Meir Chaim Waknin, 20 ans de Elat, et du sergent-chef Noam Bitan, 20 ans de Yad Rambam. D'ailleurs, on a appris à la sortie du Shabbat hier la mort d'un autre soldat israélien, Ben Avishai, 20 ans de Naharia, qui est tombé lors de combats intenses dans le nord de la bande de Gaza. Il appartenait à la brigade des parachutistes. Que le souvenir de ces 3 soldats soit béni.
Et par ailleurs, le porte-parole de Tzahal a annoncé hier soir que le corps d'un 4e otage a été retrouvé dans le nord de la bande de Gaza.
Oui, il s'agit du corps de Ron Binyamin, dont on était sans nouvelles depuis le 7 octobre. Il a été retrouvé dans le même tunnel où Tzahal et le Shin Bet ont retrouvé jeudi soir les corps des trois autres otages, Shani Luk, Amit Bouskila et Yitzhak Garlander. 128 otages sont toujours détenus par le Hamas et l'on estime qu'il n'y a pas plus de 89 d'entre eux qui sont encore vivants après 226 jours de détention.
Et comme toujours les samedis soirs, plusieurs milliers d'Israéliens ont manifesté hier à Tel Aviv pour réclamer la libération des otages.
Oui, la principale manifestation s'est déroulée sur la place des otages. Yair Lapid, le leader de l'opposition, y a pris la parole et a appelé Benny Gantz à quitter sans délai le gouvernement. Au cours de ce rassemblement, les organisateurs ont diffusé un message vidéo de l'ex-secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Et puis Eden Golan, la représentante israélienne à l'Eurovision, a chanté la première version de sa chanson, celle qui mentionnait clairement les massacres du 7 octobre. Plusieurs ambassadeurs de pays étrangers, comme ceux d'Allemagne et d'Autriche, ont également assisté à ce rassemblement. Et à la fin du rassemblement, des dizaines de manifestants ont bloqué pendant quelques longues minutes le périphérique Ayalon avant d'être évacués par les forces de police.
Sur le terrain, les combats dans le nord et le sud de la bande de Gaza se poursuivent toujours intensément.
Oui, durant les combats sur l'axe Philadelphie, Tzahal a dévoilé l'existence d'une 50aine de tunnels qui reliaient la ville de Rafah à l'Égypte. L'information avait été révélée une première fois vendredi lors de la plaidoirie des avocats israéliens de la défense dans l'audience de la Cour internationale de La Haye à la suite de la requête de l'Afrique du Sud. Et puis, l'information a été confirmée hier soir en Israël. Ces tunnels ont permis au Hamas d'acheminer de l'Égypte vers la bande de Gaza d'importantes quantités d'armes et de munitions. Hier, le porte-parole de Tzahal, Daniel Agari, a révélé que durant ces combats dans la zone de Rafah, des dizaines de terroristes ont été tués, des dizaines de puits d'accès à des tunnels ont été mis à jour.
Le conseiller à la sécurité nationale américain Jack Sullivan doit arriver aujourd'hui en Israël pour des entretiens avec les principaux dirigeants israéliens.
Oui, il sera question au cours de ces rencontres du dossier des otages, de l'aide humanitaire, de l'après-guerre, mais surtout de l'opération israélienne dans la ville de Rafah. Je vous rappelle qu'Israël s'est engagé à ne pas élargir l'opération dans Rafah avant la rencontre d'aujourd'hui entre le Premier ministre Netanyahou et Jack Sullivan.
Sur le plan politique, Benny Gantz a jeté hier un sérieux pavé dans la mare.
En effet, Benny Gantz, qui est membre du cabinet de guerre, a donné une conférence de presse au cours de laquelle il a lancé un ultimatum au Premier ministre Netanyahou. Si d'ici le 8 juin prochain, un nouveau programme d'action n'est pas initié par le gouvernement, nous démissionnerons, a-t-il déclaré. Gantz a détaillé ses enjeux à révéler pour le gouvernement, un plan pour le retour des otages, l'éradication du Hamas, la démilitarisation de la bande de Gaza, une solution concrète pour l'après-guerre comme alternative au pouvoir du Hamas, le retour des habitants du nord du pays d'ici le 1er septembre, la promotion d'une normalisation avec l'Arabie Saoudite et enfin l'instauration d'un plan visant à faire intégrer les jeunes orthodoxes dans l'armée israélienne.
Mais le Premier ministre qui s'est empressé de repousser cette requête aussitôt de Benny Gantz.
Oui, effectivement. En effet, le Premier ministre a affirmé qu'il s'agissait de mots qui ont une signification claire. La fin de la guerre, une défaite militaire pour Israël, l'abandon de la majorité des otages, le maintien du Hamas au pouvoir et la création d'un État palestinien. Nos soldats ne sont pas tombés en vain et certainement pas pour remplacer le Hamastan en Fatarstan, a déclaré Benjamin Netanyahou. On estime que cette tension entre Netanyahou, Gantz et même Yoav Gallant sera au cœur des débats de la session d'été de la Knesset qui va débuter aujourd'hui.
Merci Daniel Haïk pour ce journal de 7h. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour la revue de la presse. À tout de suite.
Ce programme vous a été présenté en partenariat avec la Prépa Progrès Bar-Ilan, votre passerelle pour étudier en Israël. Un programme sur mesure au cœur de l'université Bar-Ilan pour une intégration réussie aux études supérieures en Israël. Plus d'informations sur progrès-tlv.com ou au 01 83 80 65 27.
Petit œil sur la météo dominicale, météo du jour, il fait 12 degrés actuellement sur Paris et la région parisienne avec une journée qui va alterner, voilà, entre à la fois quelques petits passages nuageux et puis des éclaircies, même quelques orages un petit peu modérés selon les villes de cette île de France. Il fera 19 degrés au maximum de l'après-midi à Tel Aviv, il fait 23 degrés actuellement, là c'est tout à fait ensoleillé avec 29 degrés au maximum de la journée et encore plus chaud du côté de Jérusalem, ensoleillé également, les températures qui monteront jusqu'à 30 degrés aujourd'hui.
Radio J.
Le 6-9.
Nicolas Raffal. Radio J.
7h06 et 40 secondes, on est en plein boom là, en pleine période du festival de Cannes. Et oui, il paraît que, alors je sais pas, il y a des gens qui se disent mais il démarque en ce festival des esprits un peu chagrins. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais en tout cas nous on a une bonne nouvelle, tiens, sur à vous donner sur Radio J, l'ouverture d'une librairie juive. Ah voilà, une information quand même qui fait plaisir. Une librairie juive qui ouvre à Cannes, qui a ouvert Judaïcan, puisque de nombreuses années, le Beit Abad de Cannes proposait des livres, des objets religieux, mais bon, ça ne représentait que quelques vitrines à l'intérieur, voilà, de locaux. Eh bien, aujourd'hui, la ville azuréenne a vu naître, là, il y a quelques jours, une vraie librairie juive ouverte à temps plein, et c'est en plein centre-ville, à deux pas de la fameuse croisette, au pied du bâtiment centre du judaïsme de Cannes et de la région Beit Abad, qu'une librairie a donc ouvert cette porte. Cette dernière servira tant les juifs implantés localement que, bien sûr, c'est tout à fait possible, les nombreux touristes et résidents secondaires. Elle propose, cette librairie judaïcane, un grand choix de livres sur le judaïsme, la Torah, le Talmud, la prière, l'éducation juive, l'histoire, la philosophie juive, et bien sûr également des articles judaïcas et objets de culte, des téfilines, des talites, des mezouzot, des plateaux de Shabbat, des bougeoirs, des verres de kiddouche, pendentifs, cartes de vœux, Kelly, avec évidemment un rayon pour les enfants. C'est Alexis Abitbol, qui a une expérience dans ce métier, qui a été libraire déjà dans le passé, et qui dit, on ne propose pas uniquement des livres religieux, mais tous les livres ayant rapport avec la culture et l'histoire juive de toutes les maisons d'édition généralistes, hein, Albin Michel, Hachette, Odile Jacob, etc. Voilà, vous pouvez trouver à Cannes le dernier livre de Bernard-Henri Lévy, le dernier Golnadel, le dernier Georges Bensoussan, et le rabbin Rav Mendel Matouzov, qui est très très satisfait de cette nouvelle réalisation de l'ouverture, voilà, de cette librairie juive judaïcane qui se trouve rue du Commandant Vidal à Cannes. Voilà, comme c'est la période de Cannes, eh bien on vous faisait un petit focus et on continue un petit tour des régions là, 30 secondes pour vous parler à Marseille de cette exposition intitulée Beat et Serge Klarsfeld, les combattants de la mémoire 1968-1976, et qui a été inaugurée le mois dernier en présence des époux Klarsfeld. C'est à Marseille et c'est à voir jusqu'au 1er septembre au musée d'histoire de la ville. Alors là, c'est une longue rétro du couple Klarsfeld qui a été créé par le Mémorial de la Shoah en 2017 à Paris. Et c'est une immersion dans leur univers absolument exceptionnel. Vous connaissez leur histoire, lui réfugié en France, le père mort à Auschwitz, elle allemande née à Berlin, militante anti-nazie, se marie en 1963 et unissent leurs forces pour traquer les anciens responsables nazis dans le monde. C'est à découvrir, les époux Klarsfeld Schwarzfeld au musée d'histoire de la ville jusqu'au 1er octobre 2024. C'est à Marseille.
Radio J.
Radio J. Le 6-9.
Nicolas Raffal. Radio J.
Et c'est une Sandrine en pleine forme olympique qu'on retrouve ce matin. Bonjour Sandrine Hadas.
Bonjour Nicolas.
Dis donc, dites-moi, il va bientôt y avoir du sport du côté du Mage, racontez-nous.
Eh oui Nicolas, l'équipe du Mage a hélas raté de justesse sa qualification pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. En revanche, le musée va participer à l'Olympiade culturelle 2024, où là, il a toutes ses chances de se hisser sur le podium. Cette Olympiade, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une programmation artistique et culturelle organisée dans toute la France. Il y a en tout 2000 événements, du spectacle vivant, de la mode, du design, de la photo, de la danse, de la musique. Il s'agit en fait d'explorer le lien entre l'art, le sport, les valeurs olympiques et paralympiques. Dans ce cadre, le Mage propose l'exposition André Steiner, le corps entre désir et dépassement. Les commissaires François Cheval et Nicolas Feuilly ont rassemblé une soixantaine de clichés réalisés par le photographe dans les années 30. Des images d'athlètes, de danseurs, des nus, des salariés qui profitent des premiers congés payés pour explorer la nature.
Alors qui était, racontez-nous, cet André Steiner?
Alors André Steiner est un précurseur de la photographie sportive en France. Il naît en Hongrie en 1901. Il sort diplômé de la prestigieuse école polytechnique de Vienne. Et au milieu des années 20, il est l'un des tout premiers utilisateurs du Leica. Avec cet appareil, il commence par réaliser en amateur une série de nus de Léa Sassone, sa future femme. En 28, face à la montée de l'antisémitisme en Autriche, le couple quitte Vienne pour Paris. Là, Steiner se consacre entièrement à la photographie. Il multiplie notamment les collaborations avec la presse, avec le magazine Vue par exemple. André Steiner n'est pas qu'un scientifique et un photographe en Autriche. Il a été aussi un sportif de haut niveau. C'est donc tout naturellement qu'à Paris, il se spécialise dans la photographie sportive. Et à cette époque, elle est encore peu explorée. André Steiner devient alors un spécialiste du corps en mouvement et du nu. Mais avec la guerre, il va réorienter sa pratique. Il s'engage dans l'armée de l'air française, où il effectue des prises de vue aériennes, puis il est démobilisé en 40. Menacé en tant que juif et étranger, il quitte Paris pour Cannes. Il s'y installe comme photographe et il intègre la résistance. Après la libération, il revient à Paris, il se spécialise dans la photographie appliquée à la technique et à la science. André Steiner meurt à Paris en 78.
Quelle est son esthétique?
Alors, on peut dire que, comme Robert Capa, qui était hongrois lui aussi, André Steiner appartient à une génération d'immigrés qui ont révolutionné la photographie. Esthétiquement, il se rattache à la nouvelle vision, ce mouvement né en Allemagne dans l'entre-deux-guerres. Steiner recourt aux déformations, aux points de vue un peu inhabituels, aux superpositions. Il exploite le potentiel technique de la photographie presque en scientifique.
Il y a d'autres manifestations qui sont prévues dans le cadre de l'Olympiade culturelle du côté du Mage, c'est bien cela Sandrine?
Oui, des rencontres à l'auditorium, la première autour d'André Steiner ce mercredi à 19h et la seconde le 19 juin sera consacrée au thème juif et boxeur. Mais la date à retenir, c'est celle du dimanche 16 juin en partenariat avec le Centre de danse du Marais. Ce jour-là, la cour du Mage va se transformer en piste de danse. Elle sera recouverte d'un parquet de 100 mètres carrés. Le matin, la compagnie Oraor proposera des ateliers de danse israélienne. Et puis l'après-midi, la compagnie Move to Circus animera nos corps avec un cocktail de danse contemporaine, de jonglage et d'équilibre. Ces ateliers sont gratuits, proposés en continu par séance de 30 minutes. Il y aura bien sûr des visites guidées de l'exposition Steiner. Et notez bien que la visite du dimanche 23 juin à 10h15 sera couplée avec une séance de méthode Feldenkrais. Et enfin, il y aura aussi un atelier de photographie pour les enfants. Alors, à vos marques, prêts, partez.
Et ben tout ça, ça va se passer du côté du musée d'art et d'histoire du judaïsme. Je vois que vous étiez vraiment dans une forme olympique ce matin. Oui. Vous êtes prête, Sandrine. Vous êtes
prête. Je suis prête.
Prête également pour le 26 juillet, le début des JO.
Oui.
Bon dimanche.
Radio J. Le 6-9.
Nicolas Raphaël. Radio J.
7h15, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour, à la une de l'actualité en ce 226e jour de guerre contre le Hamas, l'annonce de la mort de deux soldats israéliens, les sergents Nachman Meir Haim Waknin, 20 ans, d'Elat, et Noam Bitan, 20 ans, de Yad Rambam. Ils sont tombés au combat hier dans le sud de la bande de Gaza à Rafah. Deux autres soldats et un officier de l'unité de reconnaissance Givati ont été aussi grièvement blessés dans l'explosion dans un puits de tunnel piégé. Quatre corps d'otages récupérés dans la bande de Gaza vendredi dans une opération spéciale de l'armée du Shin Bet. L'identité du quatrième a été révélée hier par Tsahal. Il s'agit de Ron Benyamin, 53 ans, enlevé et tué par le Hamas au matin du 7 octobre près de Melfassim. Les terroristes du Hamas ont ensuite emmené son corps dans la bande de Gaza. Sans plan de Benjamin Netanyahou pour l'après-guerre à Gaza avant le 8 juin, Benny Gantz quittera la coalition. C'est ce qu'il a annoncé hier soir dans une allocution très attendue. Il souhaite la mise en place d'une administration palestinienne alternative au Hamas avec un soutien international et un accord sur la libération des otages. Benny Gantz s'est directement adressé à Benjamin Netanyahou hier soir et selon ses propres termes, il lui demande de ne pas choisir la voie des fanatiques. À la frontière sud, les alertes à la roquette ont retenti pour la seconde fois hier dans la soirée. Et à la frontière nord, face aux attaques du Hezbollah, des avions de combat ont frappé des bâtiments du groupe terroriste au Liban. En France, le ministre de l'Intérieur sera demain à Rouen pour décorer le policier qui a tiré sur l'auteur de l'attaque antisémite de la synagogue de la ville, synagogue de Rouen, qui a été incendiée avant-hier. Le terroriste a été tué.
Merci Eva pour ce rappel des titres et on va Guy Konopnicki va nous entretenir à nouveau voilà de cet épisode de Rouen, de ce qui s'est passé vendredi dans quelques instants dans sa chronique.
Radio J.
Bonjour, c'est Lise Gutmann.
Le 10-11, Lise Gutmann.
Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté.
Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription.
Mai 2024, la guerre se poursuit et Israël n'en finit pas de panser ses plaies. Avec le Keren Hayesod, vous pouvez aider ceux qui ont besoin de se reconstruire psychologiquement. Ceux qui vivent encore dans des hôtels parce que leurs logements ont été détruits ou sont trop exposés aux tirs de missiles. Soutenez-les en faisant un don dans le cadre de votre IFI ou de votre IR. Nous sommes tous dans le même bateau. Faites votre don sur keren-hayesod.fr. keren-hayesod.fr.
Radio J.
Le 6-9.
Nicolas Raphaël.
7h18, 40 secondes sur Radio J. C'est l'ami Guy Konopnicki qui est là avec nous dans quelques instants et qui va revenir. Eh bien, sur cet épisode, vous en avez parlé dans le rappel des titres, Eva, cette synagogue de Rouen, on en a parlé tout à l'heure, à 6h46. Voilà, de l'historique, de l'histoire de cette synagogue de Rouen et de l'histoire de cette communauté juive rouennaise, malmenée dans l'histoire et voilà, qui, eh bien, aujourd'hui s'articule autour de 200 familles, 750 personnes juives à peu près, du côté de Rouen. Et cette synagogue, donc, a été incendiée avant-hier. Terroriste tué alors qu'il fonçait sur les policiers arrivés sur place avec un couteau, un Algérien sous le coup d'une OQTF qui venait de mettre le feu au lieu de culte. On sait que, voilà, les propos de Gérald Darmanin étaient dangereux, mais inconnus des services de renseignement. C'est donc eh bien l'ami chroniqueur, journaliste, écrivain Guy Konopnicki avec nous comme tous les dimanches à 7h20 qui revient sur cet événement survenu il y a 2 jours. Guy, bonjour.
Bonjour. Après des mois de propos incendiaires, le feu a pris dans la synagogue de Rouen. Le lieu est hautement symbolique. L'histoire atteste d'une très ancienne présence juive qui faisait de Rouen la première ville juive d'Europe dans l'Europe médiévale, avant évidemment les massacres qui eurent lieu à l'époque de Philippe le Bel. Je ne sais si l'incendiaire algérien connaît l'histoire. Je sais seulement qu'en Algérie comme en France, il a été nourri de propagande antisémite. La diabolisation d'Israël est très utile en Algérie, pays dont les richesses sont confisquées par une caste au pouvoir, une caste d'usurpateurs des combats de la guerre d'Algérie, dont ils ont tué les principaux protagonistes. Les dirigeants algériens, leur presse, leurs médias, ainsi que les dirigeants islamistes n'ont de cesse de brandir la cause palestinienne et d'accuser Israël. Cela permet de détourner l'attention sur la situation de ce pays, dont la jeunesse, faute de perspective, cherche par tous les moyens à rejoindre l'ancienne métropole coloniale. C'est dans la métropole coloniale que l'incendiaire de Rouen espérait être soigné. Parce qu'il ne peut pas être soigné chez lui, sans doute. Et quand ça ne va pas, eh bien, quand ça ne va pas, il reste les Juifs. C'est, hélas, vieux comme le monde. En Algérie, la propagande attribue tous les maux à la France coloniale et à Israël. Cela permet aussi d'occulter l'histoire sanglante de l'Algérie des années 90. L'incendiaire de Rouen est né en 1995, au cœur d'une guerre civile qui a fait des dizaines et des dizaines de milliers de morts, où il y a eu des massacres, des enfants égorgés, des collèges, des collégiennes. C'est ça l'Algérie. Et on vient quémander en France, on vient mettre sur le dos de la France et des Juifs la catastrophe de l'Algérie. Ils n'ont guère de dignité, les dirigeants, qui laissent leurs ressortissants venir mendier l'aide et les soins chez l'affreux colonisateur qu'ils dénoncent chaque jour dans leur vision de l'histoire. Et évidemment, la France, c'est juif. Je me demande ce que diraient les Algériens, le gouvernement algérien, si les dizaines de milliers de Juifs d'Algérie disposaient du statut de réfugié héréditaire qui est celui des Palestiniens. Naturellement, les incendiaires verbaux n'ont pas manqué de se démarquer de cet affreux incendie. Mélenchon, qui n'en est pas à un mensonge près, affirme qu'une même intolérance frappe juifs et musulmans de France. Une manière d'inventer un mal qui serait français, peut-être chrétien, et ne devrait rien à la propagande islamiste, moins encore à celle des insoumis. Mélenchon voudrait nous faire croire qu'il y a des forces, on ne sait pas lesquelles, qui luttent contre la liberté des cultes musulmans et juifs, et que évidemment les quelques graffitis trouvés sur une mosquée, ce qui est tout à fait déplorable, c'est la même chose que l'augmentation exponentielle des actes antisémites, dont l'incendie de la synagogue de Rouen. Et au passage, cette notion de liberté de culte qui serait le fruit de longues luttes, on ne sait pas trop de quoi on parle. En France, il y a une déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 qui dit tout simplement que nul ne peut être poursuivi en France en raison de ses opinions, même religieuses. liberté religieuse est fondée là-dessus, puis sur l'égalité citoyenne, toujours la révolution. Mais non pas une espèce de construction qui serait la liberté de culte. Et voici qu'après l'incendie d'une synagogue, on en profite pour nous vendre en contrebande les exigences d'une autre religion qui n'est pas persécutée, qui dispose de la liberté de culte et dont certains imams abusent. Certains gauchistes invoquent même, à propos de Rouen, les incendies de synagogue, la Kristallnacht. En quelle mémoire ? Comme si aucune synagogue n'avait été attaquée en Europe depuis la défaite de l'Allemagne nazie. Oubliez, évidemment, l'attentat palestinien contre la synagogue d'Anvers. Oubliez la rue Copernic, autre attentat palestinien. Et oubliez toutes les fois où les synagogues ont été des cibles, en France, en Europe, du même terrorisme, comme évidemment les écoles, les commerces juifs, les lieux juifs en général. En vérité, il n'y a pas d'intolérance française qui rejetterait les cultes minoritaires du tout, mais il y a un antisémitisme attisé par l'islamisme, attisé par les manifestations gauchistes, le soutien aux extrémistes, aux terroristes du Hamas, et bien sûr, on n'est même pas surpris quand on apprend qu'il y a le feu dans une synagogue. On cherchera, comme toujours, à psychiatriser l'incendiaire, à isoler l'incendie matériel de Rouen de ce feu propagé de manifs en blocage et par les bombes incendiaires lancées chaque jour, presque à chaque instant, dans les médias, sur les réseaux sociaux, par la mouvance islamo-gauchiste.
Radio J, Zoom Israël, Pascal Sunshine.
Radio J. Et comme tous les dimanches matins, on retrouve notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine, pour son Zoom Israël. Bonjour Pascal.
Bonjour Eva. Israël a annoncé ce matin la mort de deux soldats tués hier à Rafah, le sergent-chef Nachman Meir Haim Vaknin, 20 ans, et le sergent-chef Noam Bitan, 20 ans. Vendredi soir, Israël avait également annoncé la mort du sergent Ben Avishai, 20 ans, tué vendredi dans le nord de la bande de Gaza, ce qui porte à 630 le nombre de soldats et soldates de Israël tombés depuis le 7 octobre. Et puis, Israël a réussi à ramener les dépouilles de 4 otages, Shani Luk, 23 ans, Amit Esther Bouskila, 28 ans, Yitzhak Gellerenter, 56 ans, et Ron Benyamin, 53 ans. Tous les 4 avaient été assassinés le 7 octobre par le Hamas, près de Mefalsim, dans l'ouest du Negev, et les terroristes avaient emporté leurs corps. L'opération a été menée depuis jeudi, après une patiente et minutieuse collecte d'informations par les renseignements militaires et les services de sécurité intérieure du Shin Bet, notamment par les interrogatoires des terroristes de la force Nourba qui avaient perpétré les massacres. Ce sont des unités spéciales qui ont réussi à retrouver les dépouilles, apparemment dans des tunnels dans le nord de la bande de Gaza. Il reste désormais 128 otages, dont au moins 39 ne sont plus en vie. À Gaza, les combats ont continué tout au long du week-end avec des opérations de Tsahal et des incursions ponctuelles à Jabalia, dans le nord du territoire, mais aussi dans le centre et au sud, à Rafah, où les troupes israéliennes sont entrées le 6 mai dans l'est de la ville et progressent maintenant le long de la route Philadelphie qui sépare le sud de la bande de Gaza de la frontière égyptienne et où les soldats ont déjà découvert plusieurs tunnels du Hamas. Mais le Hamas continue aussi réussi à tirer sur l'ouest du Negev, comme il le fait quotidiennement depuis 8 jours. 10 roquettes ont visé Ashkelon, dont 5 ont été interceptées. Il n'y a pas eu de blessés. Les attaques continuent aussi sur le front nord, avec des tirs de roquettes et de missiles anti-chars constants et des incursions de drones sur la Haute-Galilée et l'ouest du Negev. Et puis, hier soir, le ministre du cabinet de guerre, Benny Gantz, a tenu une conférence de presse pour fixer un nouvel ultimatum à Benjamin Netanyahou et l'enjoindre de prendre des décisions stratégiques. Il a donné jusqu'au 8 juin au chef de gouvernement pour prendre sa décision.
Merci beaucoup Pascal Sunshine. Pascal Sunshine qu'on retrouvera bien sûr demain matin dans le 6-9 le morning d'Ilana Ferradian sur Radio J. Merci Pascal, bonne journée à vous.
Le 6-9, Nicolas Raffal.
Il est 7h30, c'est l'heure de la revue de la presse. Bonjour à toutes et à tous. On se dirige à nouveau vers le studio Kalita de Jérusalem. On retrouve Daniel Haïk.
Le direct de Jérusalem vous est offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël.
keren-hayesod.fr.
Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem.
À nouveau Boker Tov, à nouveau bonjour Daniel Haïk. On démarre cette revue de la presse par le développement tragique le plus important de ces derniers jours.
Et oui, effectivement, Nicolas, il s'agit bien sûr de la découverte des corps de 4 otages israéliens, Amit Bouskila, Itzik Garlander, Ron Binyamin et Shani Luk, des tunnels de Gaza à l'inhumation en Israël, titre en manchette ce matin le Yediot Aharonot en nous montrant les photos des 4 otages. Ron Binyamin faisait du vélo ce matin, le matin du 7 octobre, près de Be'eri, il a été sauvagement assassiné, son corps kidnappé. Les 3 autres otages ont été tués en fuyant le festival Nova à Reim. Les corps des 4 otages ont été retrouvés grâce à une opération conjointe du Shin Bet et de Tzahal dans un tunnel dans le nord de la bande de Gaza. Le plus triste retour, titre en manchette pour sa part le Israël Hayom en nous montrant lui aussi les photos des 4 otages, et le journal souligne qu'il reste encore dans Gaza 128 otages et que 800 000 Gazaouis ont fui Rafah. Et puis une autre photo de ce matin en une des quotidiens israéliens, celle du soldat Ben Avishai Ronolivraha qui est tombé au combat durant le Shabbat lors des combats dans Jebalia, des combats qui s'intensifient dans cette zone, il faut souligner, comme n'ont pas pu le faire les quotidiens israéliens, mais comme le font ce matin les sites d'information, que 2 autres soldats de l'unité d'élite des commandos de Givati ont été tués au combat dans la bande de Gaza.
Yoav Limor dans le Israël Hayom comprend que même les efforts les plus intenses investis par le Shin Bet et par Tzal ne ramèneront pas vivants tous les otages.
Oui, Limor, qui est le spécialiste sécuritaire du journal, écrit ce matin, il y a des dizaines de corps d'otages dans la bande de Gaza et toute opération militaire ne permettra que la libération de quelques-uns des otages vivants. Guerre plus, il rappelle que l'on savait que Shani Luk n'était plus en vie depuis le 7 octobre, alors que personne n'avait vu vivant les 3 autres otages. Il révèle également que les corps ont été retrouvés de manière ordonnée dans des sacs, comme si le Hamas savait qu'il devrait les restituer dans le cadre d'un marché. C'est une source d'encouragement, si l'on peut dire, pour ceux qui espèrent retrouver les corps de leurs proches, écrit Yoav Limor ce matin. Et comme l'écrit également Karni Eldar dans le Israël Hayom ce matin, le cœur a besoin d'une sépulture pour pouvoir pleurer.
Le Yediot Aharonot donne ce matin la parole dans ses colonnes à Yonatan Dekelren, le père de Sagi qui a été kidnappé à Gaza.
Oui, et celui-ci écrit dans cet éditorial qui est une sorte de réquisitoire, la société israélienne, à l'exception des franges les plus radicales, est toujours en état de choc depuis le 7 octobre. En état de choc face au colossal échec militaire de cette journée-là et face au plus colossal échec encore de l'échelon politique qui a suivi l'immense majorité des Israéliens veulent seulement que les otages reviennent, que le règne du Hamas se termine et que les tueries cessent.
Et les quotidiens et les sites d'information, Daniel, tentent d'analyser cette activité militaire de plus en plus importante qui se développe dans le nord d'Israël.
Oui, aussi Joshua, le spécialiste sécuritaire du Yediot Aharonot, constate que Hassan Nasrallah poursuit et intensifie ses attaques contre les localités du nord d'Israël dans le but clair d'épuiser Israël. Du côté israélien, on comprend que l'on ne pourra pas repousser sans cesse une décision concernant le front nord, mais cela dépendra aussi de la situation politique à l'intérieur du cabinet de guerre. Yoav Limor écrit également dans le Israël Hayom qu'il est temps de dire la vérité aux habitants du nord d'Israël. Israël doit décider ce qu'il faut, une guerre ou un accord dans le nord du pays.
Et les quotidiens qui se penchent également ce matin sur l'ultimatum politique lancé hier soir par Benny Gantz.
Le patron du camp républicain a donné une conférence de presse dans laquelle il a clairement affirmé si d'ici le 8 juin prochain, aucun plan d'action nouveau n'est préparé par le gouvernement, alors nous le quitterons. Le Yedioth Ahronoth indique que Gantz a prévenu Gallant de sa démarche et il publie la quintessence de la réponse de Benjamin Netanyahu, que Gantz pose des ultimatums non pas à nous mais au Hamas. Ces conditions vont conduire à la défaite, a déclaré le premier ministre israélien.
Et dites-nous un mot, Daniel, sur ce qu'écrivent les éditorialistes ce matin autour de cette démarche précisément de Benny Gantz.
Daniel écrit dans le Yedioth Ahronoth, Gantz se conduit comme un gentleman polonais dans un bordel, écrit-il. Il espère faire entrer un peu de correction là où tout est à l'envers. Désormais, Netanyahou va lui faire traverser une via dolorosa et lui rappeler ce que disait Yitzhak Shamir en politique. Prends garde de ne jamais te poser à toi-même d'ultimatum. Shimon Schiffer écrit toujours dans le Yedioth Ahronoth, si Netanyahou ne veut pas de Fatahistan dans la bande de Gaza et qu'il préfère un gouvernement militaire israélien dans cette bande de Gaza, alors qu'il le dise clairement et qu'il aille jusqu'au bout dans ce dossier en présentant ce plan vers des élections législatives. Amnon Abramovitch titre dans son éditorial sur le site N12, Gantz balade pour un naïf, c'est le titre de cet éditorial. Nechama Doek écrit dans le Israel Hayom que l'on a le sentiment d'être dans une montagne russe politique et dans un train qui n'a plus de frein. Gantz sait très bien que Netanyahou ne préparera pas de nouveaux plans avant le 8 juin. Il cherche que le Premier ministre lui mette la corde au cou. Fin de citation.
Et puis, Amir Ettinger dans le Israel Hayom nous rappelle que c'est aujourd'hui et demain que la Knesset reprend ses travaux après les vacances parlementaires de Pessah.
Oui, la grande question qui va planer en cette rentrée parlementaire, c'est est-ce que la coalition parviendra à tenir jusqu'au bout de cette session d'été le 28 juillet prochain. L'un des dossiers majeurs qui animera cette session sera bien sûr la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot, sans oublier bien entendu tous les dossiers liés directement à la guerre.
Et puis pour terminer, tous les quotidiens et les sites d'information annoncent le décès de Yael Dayan.
Oui, elle était avant tout la fille du légendaire Moshe Dayan, général qui vainqueur de la guerre des six jours, celle qui, alors qu'elle n'était que lieutenante dans Tzal, l'avait accompagnée durant cette fameuse guerre des six jours et qui a écrit des ouvrages sur ces journées historiques. Mais par la suite, Yael Dayan va devenir une figure marquante de la vie politique israélienne, d'abord du parti travailliste et ensuite du parti Meretz, tout en demeurant une écrivain de renom. Elle est décédée à l'âge de 85 ans des suites d'une longue maladie. Les quotidiens lui rend hommage. Et Yossi Bélin, l'ancien ministre de la Justice, écrit dans le Israel Hayom que Yael Dayan avait de l'empathie pour tous.
Eh bien, merci Daniel Haïk pour cette revue de la presse tout à fait complète. 7h37 sur Radio J. On est ensemble eh bien, jusqu'à 8h45 pour ce morning. Pour cette...
Le direct de Jérusalem vous a été offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël. Depuis le 7 octobre, les victimes du terrorisme sont la priorité du Keren Hayesod. 300 000 déplacés, une population entière traumatisée. Les besoins sont immenses. Aidons-les.
Keren-Hayesod.fr.
Ensemble, nous vaincrons.
Le Forum Radio J. Retrouvez tous les dimanches à 14h10 le Forum Radio J, l'émission politique historique de Frédéric Aziza. Ce dimanche,
je recevrai le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Gedge.
Le Forum Radio J de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 14h10 uniquement sur Radio J.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière.
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine. Grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org.
MDA-France.org.
Depuis le 7 octobre, le KKL est sur tous les fronts pour aider les populations d'Israël. Aide financière d'urgence pour les villes du sud du pays, transport et relogement des populations évacuées vers le centre du pays, soutien financier au centre d'aide psychologique, accompagnement éducatif. Le KKL agit quotidiennement pour le peuple d'Israël. Continuez à nous aider, à les aider. Faites un don sur don.kkl.fr/urgence. KKL de France, 01 42 86 88 88.
Radio J, le 6-9,
Nicolas Raffal.
7h39, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Radio J. On continue de dérouler le programme. On est ensemble jusqu'à 8h45 pour cette matinale. Et à 7h40, eh bien maintenant, eh bien oui, on y va. L'invité de la rédaction à votre micro, Eva Soto, est Isabelle Kersimon, journaliste indépendante et auteure de « Les mots de la haine, glossaire des mots de l'extrême droite » paru aux éditions Rue de Seine.
Bonjour Isabelle Kersimon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. On reviendra bien sûr dans quelques instants à votre réaction, évidemment par rapport aux dernières informations, l'accélération des actes antisémites. Mais avant, pour bien comprendre, vous considérez que le discours d'Alain Soral actuellement est devenu mainstream. Pourquoi ?
Oui, ce que j'analyse dans les mots de la haine, c'est avec quelles armes sémantiques, ce que j'appelle des armes sémantiques, le discours d'Alain Soral s'est en effet mainstreamisé. Pas seulement le sien d'ailleurs, hein. L'extrême droite d'une manière générale s'est banalisée par la cognition et a fabriqué un monde que j'appelle une alt-réalité, un alt-monde, un monde complet en fait. Dans ces armes, il y a évidemment la falsification historique, il y a les mensonges, il y a la désinformation, la mésinformation, il y a toute une série d'armes comme ça, au sein desquelles s'inscrivent des termes particuliers, tout un registre lexical qui porte les idées de Soral, à savoir l'antiféminisme, la haine des femmes, l'antisémitisme, bien évidemment, et puis une façon dévoyée d'envisager la vie républicaine.
Dans cette alt-réalité que vous décrivez, est-ce que il y a des choses actuellement qui se dégagent et qui peuvent en être issues? Par exemple, je pense à ce dernier tweet de Rima Hassan où il y a un drapeau palestinien qui flotte au vent et elle met « il était là avant vous, il sera là après vous ». Est-ce que ça relève de ça?
Totalement. Et donc, en effet, si la pensée, notamment d'Alain Soral, a contaminé l'espace public et l'espace politique, elle a à l'extrême droite, à droite, elle a aussi contaminé une partie de la gauche, en réalité, la gauche mélenchoniste. Lorsque Rima Hassan publie ce tweet, qu'est-ce qu'elle dit ? Nous étions, donc nous, Palestiniens, au sens où elle entend, elle est très nationaliste, hein, elle entend palestinien, elle se revendique d'ailleurs... comme l'extrême droite nationaliste en France, hein, de la terre ancestrale, nous étions là avant vous, nous serons là après, ça veut dire ensuite, vous ne serez plus là, vous, les Israéliens. Donc c'est vraiment, j'ai vu qu'elle l'avait retweeté en plus son propre tweet, donc elle réaffirme que quelque chose, elle est très habile de manière rhétorique, elle est extrêmement habile, je la juge extrêmement perverse. Et elle, mine de rien, elle est en train de dire que il y aura plus l'État d'Israël, donc l'État refuge des Juifs, mais il y aura ce qu'elle considère comme la Palestine, qui est un monde onirique, en fait.
Elle appelle justement Rima Hassan, elle dit « mais non, j'appelle pas du tout à la destruction d'Israël », en tout cas c'est son discours, elle dit qu'elle appelle à un État binational.
Oui, bon, c'est quelque chose que j'entends depuis une vingtaine d'années, avec des gens très sincères, hein, d'ailleurs, hein, qui ont prôné l'État binational. Mais je veux dire, ça relève aussi de la plus parfaite utopie. Vous pouvez pas, avec ce qui s'est passé le 7 octobre, le Hamas qui a menacé de recommencer, c'est-à-dire de commettre de nouveau les massacres du 7 octobre et de les commettre, qui plus est, mille fois, vous ne pouvez pas bâtir un État binational avec des gens du Hamas. C'est absolument impossible. Ils viennent de vous massacrer, ils menacent de vous massacrer mille fois plus. On ne peut pas vivre dans la concorde avec des terroristes qui veulent votre anéantissement.
En quoi tout ça, ce serait issu finalement de la pensée d'Alain Soral, Isabelle Kersimon ?
Mais en fait, il y a deux choses. Il y a la question Israël-Palestine et il y a la question juif. Là en l'espèce, français-juif. En fait, côté Israël-Palestine, il faut se souvenir qu'en 2009, avec Dieudonné et l'Iranien Yahya Gwasmi, Alain Soral a fondé un parti qui s'appelait le Parti antisioniste et qui portait une liste antisioniste aux européennes. Et ce que fait LFI, ce qu'a fait LFI en mettant Rima Hassan en vedette, c'est introduire l'antisionisme éradicateur, on le voit avec ce tweet, au sein des élections européennes. C'était exactement le propos du parti antisioniste. Par ailleurs, considérait, qui concerne les Juifs français, qu'il fallait libérer la France du sionisme. Je vous laisse imaginer, Eva, ce que ça peut signifier. Libérer la France du sionisme, sous le sous-texte, c'est que, en fait, les Juifs, c'est comme d'habitude, les Juifs sont surpuissants, ils sont aux commandes, ils maîtrisent la politique, l'économie, etc. Et il faut les éliminer pour avoir un pays qui soit de nouveau pur de je ne sais quoi. D'ailleurs, ce qui est complètement fou dans la campagne que mène Rima Hassan, on a quand même une extrême droite qui est à plus de 1% actuellement dans les sondages. Elle n'attaque qu'un seul candidat, c'est Raphaël Glucksmann.
Effectivement, c'est vrai, LFI n'attaque qu'un seul candidat, c'est Raphaël Glucksmann. Pour en revenir à la dimension antisémite, Isabelle Kersimon, parce que c'est pour ça hein, qu'on est ensemble ce matin, vous avez parlé à juste titre de l'antisionisme, vous avez rappelé la liste de 2009, Alain Soral Dieudonné, la liste antisioniste, et vous avez évoqué brièvement le fait que l'antisémitisme soralien, ça concerne aussi les Juifs en France. De quoi parlez-vous exactement et qu'est-ce qui, dans les discours publics, a germé de ça ou s'en est inspiré?
En fait, c'est un petit peu compliqué. Là, je vais rester sur la thématique de la liste antisioniste et de l'antisionisme enjeu majeur porté par LFI au cœur des Européennes, parce que sur l'antisémitisme d'extrême droite, je vous renvoie à mon livre. Il ne faut pas croire qu'il a disparu jamais, en fait. Et là, c'est la manière de considérer que les Juifs sont des sionistes et la manière, en parallèle, d'exiger que les Juifs se détachent d'Israël. Tout en disant, pour ce qui concerne Rima Hassan, moi, c'est quelque chose qui me stupéfie. Oui, pourquoi je n'aurais pas le droit de revoir la maison de ma grand-mère? Bon, moi, perso, je ne peux pas revoir la maison de mes grands-parents ni de mes arrière-grands-parents parce qu'elles ont été rachetées, parce qu'on n'avait pas les moyens de les garder. Je veux dire, j'en fais pas un drame existentiel, quoi. Donc, il y a cette même manière, c'est encore une arme sémantique, en fait, qui va faire appel aux émotions. C'est-à-dire, moi, voir la maison de mes grands-parents. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment typique de l'extrême. On trouve ça à gauche, et je veux dire, je ne comprends même pas que des gens qui se revendiquent de gauche, qui se revendiquent des droits de l'homme, n'aient pas conscience que ça, c'est un nationalisme de la terre. C'est la terre et le peuple. Enfin, je veux dire, c'est exactement le nationalisme des nations d'extrême droite en France. Et puis, je ne comprends pas non plus, étant donné que Rima Hassan porte son obsession sur la question Israël-Palestine, qu'elle n'ait rien à dire sur l'Ukraine et Poutine, ou qu'elle n'ait rien de particulier à dire sur Assad ou sur, par exemple, le régime tunisien actuellement, qui commet des crimes sur les personnes subsahariennes en migration.
Isabelle
voilà,
Kersimon.
Comment se revendiquer des droits de l'homme et du droit international et faire silence sur tout ça. Donc, je ne parle même pas du silence sur les massacres du 7 octobre qui sont malheureusement vus, au fond, comme une réponse justifiée à encore quelque chose qui procède de l'altréalité, c'est-à-dire une colonisation par les Juifs d'Israël, ce qui est absolument historiquement faux. Enfin, on a publié sur le site un très bon papier d'Alexandre Jour, vos lecteurs pourront se référer.
Le site de l'INRER, effectivement. Juste, dernière question, Isabelle Kersimon, dans la perspective de ce que vous nous avez décrit, qui est issu de la pensée Alain Soral, quel regard portez-vous sur l'accélération actuelle des actes antisémites? Rien que pour la semaine dernière, ces mains rouges apposées sur le mur des justes au mémorial de la Shoah à Paris, et puis en fin de semaine, cet incendie de la synagogue de Rouen.
Alors, plusieurs choses. D'une part, sur l'augmentation des actes antisémites, et il me paraît évident que lorsque vous représentez Israël comme le juif du monde, mais le vilain juif des antisémites des années 30, c'est-à-dire spoliateur, menteur, exploiteur, donc là, c'est le juif hyper capitaliste, qui commet des massacres et boit le sang des enfants, je veux dire, en fait, c'est présenter Israël comme ça, évidemment, ça a des conséquences sur tous les juifs du monde, et particulièrement en France. Sur ce qui s'est passé à Rouen, l'enquête est en cours, mais il me paraît manifeste, enfin comme ça à vue de nez, que c'est un acte antisémite. Sur les mains rouges, je ne sais pas, parce que c'est quand même des mains rouges qui ont été faites au pochoir et qui peuvent un peu rappeler la manipulation des
Russes à l'époque,
des écoles de David, en pochoir, dont Viginum a démontré qu'il s'agissait en fait d'une opération russe. Il faut toujours être très prudent et quand même attendre
les résultats de l'enquête. Des enquêtes. Merci.
Mais globalement,
beaucoup.
L'augmentation de l'antisémitisme, elle est évidemment, comme je vous dis, par le.
Ah, on a des problèmes de connexion avec Isabelle Kersimon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Isabelle Kersimon. Je renvoie aussi à votre ouvrage « Les mots de la haine, glossaire des mots de l'extrême droite » paru aux éditions Rue de Seine. Merci beaucoup.
Radio J, le 6-9,
Nicolas Raffal.
7h50 sur Radio J, c'est l'heure de retrouver Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, pour le point diplomatique hebdomadaire.
Et on doit donc retrouver Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU. Beaucoup de sujets à aborder avec lui, notamment ses appels à la communauté internationale, notamment par les manifestants hier soir qui, comme chaque semaine, chaque samedi soir après Shabbat, ont battu le pavé en Israël pour réclamer un accord sur les otages, ou même, et ça c'est nouveau, de Benny Gantz dans une allocution hier soir. Il a appelé la communauté internationale à apporter son aide sur l'après-guerre à Gaza. Yehuda Lankri, bonjour, vous êtes avec nous ?
Bonjour Eva, je suis avec vous.
Yehuda Lankri, entre Benny Gantz et les manifestants hier soir qui appellent à l'aide la communauté internationale sur des sujets différents, qu'est-ce qui explique dans le contexte actuel cette convergence pour le fait d'en appeler aux étrangers pour venir en aide à Israël sur ces deux différents dossiers, les otages et l'après-guerre ?
À vrai dire, ça fait déjà un moment qu'il y a une forme de recherche d'une composante internationale pour résoudre le problème ou une partie du problème. Il faut dire que face à une situation où l'élimination catégorique de Hamas s'impose, où l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas traverse depuis longtemps une phase d'affaiblissement et d'érosion de son pouvoir, la recherche d'une composante administrative internationale de l'extérieur semble nécessaire. Donc les USA, l'Union européenne, les Palestiniens porteurs de réformes et de vitalisation de l'autorité palestinienne, des pays arabes modérés comme l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Maroc, mettons l'arc de paix des accords d'Abraham, pourraient être des acteurs tout à fait précieux pour cette restauration de la situation à Gaza et la paix entre Israël et les Palestiniens.
Yehuda Lankri, vous parlez de paix entre Israël et les Palestiniens. Pour beaucoup d'Israéliens aussi, ça semble être un objectif inatteignable, notamment après le traumatisme du 7 octobre, la guerre qui s'en est suivie. Benny Gantz, lui, met en avant le problème des objectifs de la guerre et de l'après-Gaza. Est-ce que c'est quelque chose, une inquiétude qui est beaucoup partagée en Israël ou qui reste aujourd'hui minoritaire ?
Non, c'est une inquiétude, comme vous la qualifiez, amplement partagée en Israël. N'oublions pas qu'une semaine avant Benny Gantz, c'est le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui avait tiré la sonnette d'alarme sur à peu près le même chapitre. Donc, on voit qu'à l'intérieur du gouvernement des Coudes, certaines personnalités comme Yoav Gallant, et à l'extérieur du Likoud, se fait jour une démarche par où l'on souhaite savoir ce qui se passera dans l'après-guerre. Le problème, c'est que il n'y a pas de visibilité. Cette visibilité devient absolument nécessaire.
Yehuda Lankri, il y a Binyamin Netanyahou qui a répondu notamment au ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui a fait une allocution à peu près sur le même thème que celui de Benny Gantz, qui lui a répondu « Je ne permettrai pas un Hamastan et un Fatarstan dans la bande de Gaza ». Est-ce que ça se pose en ces termes, c'est-à-dire soit on laisse un groupe terroriste dans la bande de Gaza, soit on attend la fin de la guerre pour tout décider, parce qu'on l'a vu, Tsahal a dû retourner notamment à Jabalia, où le travail avait déjà été fait pour éradiquer le Hamas dans cette ville.
C'est symptomatiquement caractéristique de ce que je qualifierais de truite démagogique chez notre Premier ministre. C'est une réponse qui est inacceptable. Elle ne va pas au fond des choses. Ça n'est pas avec une formule lapidaire Hamastan ou Fatahastan qu'on va résoudre le problème. Il se trouve que M. Netanyahou s'est accommodé de l'existence ou même parfois la coexistence avec Fatahastan, avec Mahmoud Abbas et son équipe, et qu'il a soigné le Hamas avant le 7 octobre avec des fonds provenant du Qatar. Donc, essayer de jeter tout ça en une formule pour écarter toute possibilité de discuter de la stratégie à adopter pour l'avenir, ça me semble un peu superficiel et irresponsable. Donc, il va falloir aller au fond des choses et examiner la situation comme ça doit se faire par une équipe sérieuse et rejeter tous les facteurs politiques, parce qu'on sait qu'il y a une pression de la droite radicale sur le Premier ministre qui rêve encore, qui se fait le fantasme d'une recolonisation de la bande de Gaza. Et évidemment, si l'on fait appel à une composante de l'extérieur, cela va sceller la fin de ce fantasme et peut-être mettre Netanyahou en risque de chute de son gouvernement.
Yehuda Lankri, pourquoi ces dernières années, avant le 7 octobre, une telle méfiance en Israël par rapport à une intervention de la communauté internationale? Il en a souvent été question, y compris avant le 7 octobre, et ça c'est quelque chose que les différents gouvernements israéliens ont toujours vu avec méfiance.
C'est juste, nous avons toujours été très méfiants par rapport à l'interventionnisme international. On sait comment ça débute, on ne sait pas comment ça se termine. Il n'y a jamais eu de mandat clair et précis prévu pour ce type d'incursion internationale, mais on devrait pouvoir régler cette situation, faire appel à une composante internationale, mais avec un mandat précis, c'est-à-dire une administration civile, une reconstruction de Gaza, sans le réseau de tunnels, évidemment, avec une marge de manœuvre sécuritaire d'Israël. Il faut absolument qu'Israël conserve le contrôle sécuritaire.
Yehuda Lankri, Israël doit conserver le contrôle sécuritaire et en même temps ménager, d'après ce qui se passe notamment à Jabalia, la transition. Est-ce que les deux sont faisables simultanément?
Alors, ménager quoi? Je n'ai pas entendu.
La transition du pouvoir dans la bande de Gaza.
On devrait pouvoir y arriver parce que c'est inéluctable. Il faut remplacer le Hamas par autre chose. Il faut que la composante palestinienne puisse avoir sa place, être porteuse d'une nouvelle ère entre Palestiniens et Israéliens. Ça va demander du temps, ça va demander du travail, mais il faut la volonté politique pour le faire. Et cette volonté politique n'existe pas au sommet décideur d'Israël, c'est-à-dire chez le Premier ministre. Parce que il est sous la pression de l'aile radicale de droite qui ne rêve que d'autre chose.
Qui rêve de quoi ?
De recoloniser Gaza. Rien moins. Voilà quel est le fantasme de la droite israélienne, l'extrême droite.
Alors, très rapidement, Yehuda Lankri, on reviendra bien sûr avec vous sur toutes ces questions la semaine prochaine dans notre point diplomatique. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio J, comme tous les dimanches matins. Bonne journée à vous, Yehuda Lankri, et à la semaine prochaine.
Bonne journée, Eva.
Merci Eva et Yehuda Lankri. On se retrouve dans quelques instants. Ce sera le journal de 8h. Radio J.
Le 6-9.
Nicolas Raffal.
Les enfants de la République, tous les dimanches sur Radio J à 8h45, au micro de Frédéric Aziza. Ce dimanche,
je recevrai le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand.
Les enfants de la République, de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 8h45, uniquement sur Radio J.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière.
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine. Grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org.
MDA-France.org.
Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand salon de l'Alia.